El Agemara, à ce moment-là, explique la différence entre Derech et Davar. Si on avait mis le mot de Davar, on aurait mis tout au masculin. Et c'est donc pour mettre le féminin qu'on a mis le mot de Derech. Et c'est là que la Gemara arrive. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Nous ne sommes pas en étude de Gemara, sinon vous suivrez dans le détail de l'analyse. Peut-être que ça vaudrait la peine de faire une séminaire là-dessus, mais enfin, il me semble. Alors, on peut prendre d'ailleurs une autre demeure. Alors voilà quel est le problème. D'abord, c'est une chose donnée une fois pour toutes. D'abord, ça veut dire quelque chose de constitué, statique. Et ça signifierait, si on avait dit d'abord, que l'acte de procédure du mariage est acquis une fois pour toutes. Bien, j'ai un engagement, je ne sais pas comment dire. Ça ressemblerait à une procédure d'achat. Je donne mon amour, tu te donnes à moi, et réciproque. Et la Gemara dit non, ça c'est pas mariage. Est-ce que vous suivez le problème? Okay. Ça ne peut pas être un acte qui, en soi, crée une situation définitive. Ça c'est d'avoir un troc. D'avoir, je te donne une bague, et puis toi tu es marié. Est-ce que c'est clair? Derrière, c'est une conduite permanente. Et elle donne énormément d'exemples dans l'emploi de ce mot derrière dans les Mishnayot, en disant que chaque fois que la Mishnah peut définir une identité de façon définitive, elle dit « davar ». Par exemple, les légumes et le fruit de l'arbre sont différents de trois manières par rapport à la dîme que l'on doit donner. Là, elle dit « davar » parce qu'un légume est un légume, un arbre est un arbre, il n'y a pas à se tromper, la définition est claire. C'est une chose, la définition est statique, je veux dire, c'est une identité achevée pour elle-même. Mais lorsqu'il s'agit d'un arbre dont on ne sait pas très bien si c'est un légume ou un arbre, il dit derrière. Oui. Vous comprenez le problème? Ça veut dire, lorsque il y a une identité dynamique, un chemin, alors la Mishnah dit derrière. Lorsque c'est une identité statique, la Mishnah dit d'abord. Par rapport au problème du mariage, c'est très simple. Ça veut dire que c'est une conduite permanente qui fait qu'on est marié. Et que ce n'est pas la procédure, légalement, oui, la procédure légale fait changer de niveau de façon irréversible. Mais à ce moment-là, le mari ne s'appelle pas Ish, il s'appelle Baal. Okay? Mais le Baal ne devient vraiment Ish que lorsque le derrière a été réussi. Bon, je dis cela pour ceux qui sont en train d'étudier le texte, mais vous voyez dans quelle perspective ça donne. Et effectivement, nous avons un chapitre entier dans la Gemara de Kiddushin pour faire comprendre avec beaucoup d'humour que ce n'est pas la cérémonie de mariage qui marie. La cérémonie de mariage ne fait pas partie des trois procédures. Hein? Parce qu'on pourrait croire que la cérémonie du mariage a marié. Mais ce n'est pas du tout cela. C'est un engagement réciproque d'un certain derrière qui fait qu'il y a mariage. Alors si on a réussi ce derrière, le mariage est confirmé et le mari s'appelle époux, en français ish. Okay? Sinon il reste baal, ce qui est un mot très inférieur. Et à ce moment-là, on prévoit déjà la procédure qui libérera la femme, c'est-à-dire ou le divorce ou la mort du mari. Vous avez appris la Mishnah, hein? Et la... Monsieur Mishnah, c'est une...
Il y a bien sûr de ce
que... Ah bon, je ne sais pas de laquelle... Il se base là-dessus, je ne sais pas.
Oui, oui. C'est plus aérien.
Bon, c'est un autre problème. Au niveau légal, c'est exact. C'est-à-dire, ce n'est que quand la femme a accepté la pruta que le mariage est mariage.
Or, ils ont tout axé justement sur l'acte de donner de l'homme, alors que l'acte de recevoir de la femme est aussi important.
Peut-être qu'ils vont... Non seulement que c'est aussi important, c'est le seul qui est important. Parce que tant que l'homme a donné la prouta et que la femme ne l'a pas acceptée, il n'y a pas de mariage.
Mais Je crois que le rapport même, c'est un tout entre Dieu et l'autre lui. C'est-à-dire que tant qu'il ne s'accepte pas en tant que destinataire de la promesse ne peut pas être unie. C'est-à-dire que l'engagement de Dieu est l'engagement même du peuple juif. Et il y a, quand en tant que destinataire...
Nahon, vous avez changé de niveau. Restons encore un peu au niveau légal. Au niveau légal, il n'y a mariage que si la femme a accepté la bague. La prouta ici, c'est préfiguratif de la bague. Hein? C'est-à-dire que la bague doit avoir au moins la valeur d'une prouta. Mais ça, c'est au niveau légal. Ça veut dire, étant donné que l'acte dans l'existence, l'acte d'accouplement, fait que c'est le mari qui est sujet et la femme qui est objet, il faut que la procédure réintègre la réciprocité en donnant à la femme la position de sujet dans la procédure. Par contre, c'est pourquoi Aïcha est au sujet. Le sujet, c'est Aïcha. Hein? Alors, c'est pourquoi, au point de vue légal, tant qu'elle ne décide pas d'accepter la bague, il n'y a pas de mariage. Mais le problème que je posais est exactement l'inverse. C'est-à-dire, tant que le mari n'arrive pas à passer du niveau troc, j'ai donné quelque chose, tu as accepté, tu es à moi, au niveau derrière, il n'est pas vraiment marié pour en haut. Pour en bas, oui, mais pas pour en haut. Et alors, s'il n'a pas réussi à devenir Ish, et ça c'est le début de la Mishnah du deuxième chapitre, à Ish, Mekadesh, okay, là c'est lui qui est le sujet de la procédure, mais il faut qu'il devienne Ish. Ici, c'est Baal qui s'appelle. Vous entendez la différence en hébreu pour les hébraïsans? Alors à ce moment-là, il y a deux issues possibles que la Mishnah tout de suite indique. C'est Get ou Mintat à Baal. Je vais raconter une histoire. Un jour, devant un Beddin, il y avait un mari qui ne voulait pas donner le divorce à sa femme alors qu'elle y avait droit. Alors le rabbin l'a prévenu. Tu sais ce qu'il a écrit dans la Mishnah? C'est vous le divorce ou la mort du mari? Il a dit, moi j'y crois pas. Et bien dans l'année, il est mort. Et il aurait pu ne pas mourir dans l'année. Mais c'est ce que l'histoire raconte. C'est une Mishnah terrible pour le mari. Ça veut dire que le mariage n'est vraiment confirmé que dans la mesure où le derrière de la conduite a été réussi. Bon, encore une fois, dans ces problèmes, n'essayez pas d'identifier ce qui se passe chez les voisins ou chez les cousins, mais vous comprenez le principe en général. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a un divorce ou un veuvage, c'est le mari, le pauvre, qui était fautif. Mais c'est simplement pour comprendre le principe. Alors il apparaît une définition qui nous montre dans quel cas derrière est au féminin et signifie Torah. Okay? Ce qui nous fait comprendre la relation entre l'idée de Torah et l'idée de derrière. La Torah est un derrière, c'est-à-dire un projet de conduite qui ne peut pas être acquis une fois pour toutes comme un davar. C'est pourquoi elle s'appelle derrière. Et ça rejoint un peu avec votre question de tout à l'heure. Hein? Et donc, elle ne peut être reçue que par ceux qui savent qu'est-ce que c'est être en chemin.
Le sort de la bague dit l'an prochain à Jérusalem, et en Israël, pas lui, on dit l'an prochain à Jérusalem à Sauré. Il y a maintenant l'attention en tant que chemin, en tant que terre spirituelle, pas seulement en tant que terre réelle.
C'est cela. Et alors, c'est une question d'étape. Et c'est-à-dire que l'Israélien a déjà d'autres espérances que le juif de la Gola. Il est déjà au-delà.
Hein? Ouvrir à une économie tensionnelle, c'est-à-dire...
D'accord. Remarquez que en Israël même, on dit aussi les Shanava Birushalayim avec le même sens que la Gola, parce qu'on pense aux gens de la Gola. Il y a une kavana de participation. Par exemple, dans le Birkat Amazon, Betolichenu Me'era Komemiot Le'Arsenu. On le dit aussi en Israël. Bon, là, il y a une raison aussi. C'est parce que toute la terre n'est pas encore. Donc, alors, on revient à notre lecture. C'était la relation entre le sens de derrière et le sens de Torah. Il y a un apprentissage du chemin qui fait qu'on est capable de recevoir la Torah. Parce que la Torah, c'est la loi du chemin. Et celui qui n'a pas connu l'apprentissage du chemin n'est pas capable de recevoir la Torah. Ça y est, c'est clair? Bon. Et là, je vais...
En somme, c'est nous les
D'accord.
Mais pourquoi puisqu'on pose la question au gouvernement du Chinois, pourquoi pas directement la France?
Non, il n'y a pas, je ne sais pas comment dire. Ça, c'est un, je comprends la question, ça renvoie à un problème de grammaire à proprement parler. Le pluriel de derrière, c'est drachim. Okay? Eh bien, grâce à ta question, j'arrive à vraiment à ce que je voulais expliquer. Et je reviens à la situation du mariage et tu auras un peu ta réponse. La situation du mariage, c'est le fait que c'est la situation fondamentale de rapport entre autrui et autrui. Je vais l'indiquer d'abord d'une manière très simple que dit la Gemara de Kiddushin dans les pages 30-33. Elle dit ceci. Le temps des fiançailles est exigé pour que ces deux êtres qui se sont commis mariage se connaissent et qu'il n'arrive pas qu'au moment du mariage, le mari se plaigne en disant « mais c'était pas elle que j'avais rencontrée ». C'est resté dans une cérémonie que le rite Ashkenaz a gardée. C'est qu'au moment de la choupa, le fiancé arrive entre les deux beaux-pères, vous avez remarqué cela, et puis découvre la figure de la fiancée, la recouvre. Et c'est une cérémonie légale. Ça veut dire, est-ce que c'est bien elle à qui tu penses? Ne viens pas dire après, c'était pas elle. Et la Gemara ajoute, et il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, si après ça colle pas entre vous, ne viens pas dire, ah, parce que c'était pas la même à qui je pensais. Et comment est la preuve donnée par la Gemara? Quel verset? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la relation d'altérité entre deux sujets est d'abord posée au niveau du problème du mariage. C'est clair. Bon. Or, il n'y a que deux possibilités pour résoudre le problème de la relation de sujet à sujet. Ou l'agressivité, ou la Torah. Donc, derrière, ça peut être que ou la guerre, ou la Torah. Est-ce que c'est clair comme analyse? J'ai bien compris. Hein? Contre l'impureté. C'est le seul cas cité par notre Gemara de Kiddushin d'ailleurs, où derrière est au masculin. C'est le verset. Et là. Ah oui, absolument. Et c'est la relation naturelle du mariage, où l'homme est sujet et la femme est objet. Et c'est pourquoi la procédure réintègre que pour la procédure, la femme doit être sujet et l'homme objet. Parce que le souci de la Gemara, c'était de se dire quel est ce cas particulier d'une mitzvah, où habituellement c'est l'homme qui est sujet des mitzvot, et voilà qu'ici c'est la femme qui est le sujet de la procédure. Et parce qu'il s'agit du mariage, il faut donc réintégrer une situation de Torah. Parce qu'un problème de derer, et que c'est ou derer guerre, ou derer Torah. D'où l'importance du verset cité par la Gemara. Torah Tashem Mima Meshivat Nafesh. C'est la Torah qui ramène le Nefesh de l'homme. De la même manière, c'est la femme qui ramène le Nefesh de l'homme. Là, je vais vous expliquer un peu un autre niveau. Vous voyez, dans l'identité humaine, il y a deux dimensions. Le Etsem, l'essence, et le Nefesh, la personne. L'essence, c'est l'identité humaine en général. Et la personne, c'est l'individualité de chacun. Or, au point de départ, dans la situation naturelle, l'homme a le Etsem et la femme a le Nefesh. Dans le mariage, la femme acquiert le Etsem et l'homme acquiert le Nefesh. Et c'est pourquoi la femme est comparée à la Torah qui rend le Nefesh à l'homme. Bon, j'ai dit ça très rapidement, mais je pense que vous avez perçu le problème. Et c'est pourquoi la femme est appelée Kinyan Nefesh, de l'homme, alors que lorsque la Mishnah dit que la femme acquiert sa personne, elle ne dit pas Kinyan Nefesh, elle dit Vekona et Atzma. Elle acquiert son essence. Vous voyez la différence. Bon, en tout cas, le problème général auquel je voulais aborder est le suivant. Puisqu'il s'agit d'une relation de sujet à sujet, la situation naturelle, c'est l'agressivité. La Torah intervient pour aménager la relation de sujet à sujet. Et c'est pourquoi la Torah s'appelle derer. À la limite, si vous voulez, il n'y a que deux perspectives offertes à l'homme. Ou bien l'histoire, c'est un derer de Milhama, ou bien l'histoire, c'est un derer de Torah. Et il y a très longtemps, quand j'ai commencé mes études de philosophie, j'étais frappé par cela. C'est que les philosophes n'ont été capables de comprendre que la dialectique de derer Milhama. Et en particulier, vous le trouvez chez Hegel. Okay? Chez Hegel, qui explique, et vous savez ce que le marxisme en a fait, que la relation des personnes dans la société est une relation de désir. Vous vous rappelez de cela? Okay? Or, la relation de désir, c'est précisément, ça consiste précisément à transformer l'autre en objet. Et d'où la dialectique d'agressivité, et qui mène finalement à la lutte des classes, quoi, tout ce que vous voudrez. Enfin, ça veut dire la pensée philosophique est une pensée naturelle, très sophistiquée, très élaborée, mais elle est une pensée naturelle où on ne perçoit qu'une seule possibilité du derrière dans la relation de personne à personne, la guerre. C'est-à-dire l'agressivité. Opposée à cela apparaît la notion de derrière qui est Torah, c'est-à-dire l'aménagement de la relation de personne à personne, dont je vais vous faire le schéma très rapidement, okay, et ensuite vous poserez vos questions si vous voulez, de la manière suivante. Et c'est ce que nous avons peut-être un peu déjà appris au séminaire précédent avec Caïn et Abel. Okay. Tout transforme l'un en sujet et l'autre en objet. C'est l'équation de départ. Okay. Vous voyez, si Abel, si Caïn se considère comme le sujet, et il l'est par nature, il était le premier-né, vous vous rappelez, lui est le fils, alors son frère n'est appelé que le frère. Donc si Caïn est le sujet de la relation, il transforme l'autre en objet. À la limite, c'est le meurtre.
Il peut y avoir un rapport entre le détour, le contournement et la différence temporelle en tant que différence avec un A, un différé. C'est-à-dire que quand on dit qu'un se jette sur une travers, c'est-à-dire qu'il obéit immédiatement de la technique de l'université dans une différence entre l'obligation même à la morale et qui est en même temps la différence avec un A de l'agressivité.
Il n'a pas pris le temps d'avoir le chemin pour arriver à son frère.
De
Vertor. Ah, bon. Exactement. Très bien. Exactement. Là, Madame Amado Vanessi a beaucoup étudié cela avant qu'il était le philosophe de la différence avec un. D'accord. Oui, la base de cette analyse vient de Buber, mais modifiée par Levinas. Mais la source est Rachel.
Gilles Bernheim posait le problème dimanche dernier, la différence entre donner une pizza qui n'est rien et donner un dinar qui a une petite valeur quand même. Et moi, dans mon interprétation, je pensais que le dinar qui effectivement tient un prix, c'est que si la personne, en donnant à l'autre ce prix, ça veut dire qu'il retranche de son plaisir immédiat la possibilité même d'acheter quelque chose ou de satisfaire son plaisir. Donc, il est capable de différer en donnant ce qui a un prix avec lequel il pourrait se satisfaire, il donne à l'autre la marque même de la différence de son plaisir.
Et la Gemara envisage cette hypothèse et la repousse. Et je vais vous dire pourquoi très rapidement. Parce qu'il s'agit, dans ces trois différences, dans ces trois procédures, la première, ou Prouta ou Dinar, c'est la marque locale entre Bet Hillel et Bet Shammai. Okay? Bet Hillel dit Prouta, Bet Shammai dit Dinar. Vous vous rappelez de cela? Il s'agit de la première procédure qui est Kesef. De quoi il s'agit? Kesef, c'est ce que je donne lorsque je veux obtenir un objet de désir qui souffre. Irsof, ça veut dire désirer. Et alors, la Gemara a un très grand problème. Est-ce qu'on va habiliter un tel mariage? J'ai un désir, je donne le prix de mon désir et je prends une femme. Elle dit non. On ne peut pas l'habiliter parce que ça, c'est prostitution, ce n'est pas mariage. Okay? Et alors, tout mariage qui aurait comme motivation le désir serait, disqualifié, on ne peut pas. Il ne resterait que des saints qui se marient. Okay? Alors on va habiliter, mais à une condition. De quelle nature est le désir? Et c'est là qu'arrive la marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel dit, dès qu'il s'agit d'un désir humain, c'est déjà kasher, pruta. Tandis que Bet Shammai dit non, il suffit pas d'un désir humain. Et la pruta, vous verrez Rashi, il y a le Tosfot sur cette discussion, c'est pas la pruta dont on se sert au marché, c'est la pruta dont on se sert pour les achats du temple. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un désir de sainteté. Et c'est là que Bet Shammai arrive en disant dinar. En quoi la Gemara a refusé votre explication? Elle dit ceci. Pourquoi dinar, pruta, quelle différence? Dès qu'il y a une pièce de monnaie, c'est-à-dire il y a valeur, okay? Et alors, quelle différence entre une pruta, un dinar et une pruta sans dinar? Pruta, c'est déjà pruta. Il y a déjà la même chose dans pruta que vous avez dit dans dinar. Et la Gemara ajoute cette phrase extraordinaire. Parce que s'il s'agissait de lever d'un désir, aucune femme, j'ajoute normale, n'accepterait d'être acquise, même pas pour un panier de diamants. Il ne s'agit pas d'un achat. Vous comprenez? Ce n'est pas une différence au cours du change entre une prouta et un dinar. C'est une question qui porte sur qu'est-ce que symbolise ou la fruta ou le binaire du point de vue du désir au-delà du désir bestial, c'est-à-dire de quelle nature. Et alors, dans l'opinion de Benchamay.
Ça, c'est le désir bestial, c'est le désir d'annuler l'autre.
D'accord. Et là, c'est l'échec. Et ça, la Gemara, a priori, refuse d'appeler ça Maria. Vous voyez que derrière, de rester au féminin. Et c'est là qu'il y a un tosfot extraordinaire sur ce dinar. Lui, il dit, et nous savons que ce dinar, c'est le dinar d'argent qui est le 24e du dinar d'or. Qu'est-ce que ça vient de faire, dinar d'argent, 24e du dinar d'or? Alors il y a un super tosfot qui dit, rappelle-toi, qu'il y a 24 livres dans la Bible. Et on revient à la relation à la Torah. Il y a 24 livres dans le Tanakh. Il dit, si c'est un kisou, si c'est un désir de la même nature qui relie Israël à la Torah, c'est caché. Si c'est un désir d'une autre nature, c'est bestial. Vous voyez jusqu'où ça va dans le symbolisme. Alors fais bien attention à ce problème de la correspondance. Et nous avons une drache extraordinaire qui dit ceci. Dieu s'adresse à Israël et lui dit, j'avais une fille unique et je te l'ai donnée en mariage, attention au contrat du mariage. Et quelle est cette fille unique? C'est la Torah. Okay? Vous voyez que la relation entre l'homme et la femme doit être de même nature. Et c'est pourquoi Beit Shammai pousse les choses à la limite, que la relation entre l'homme et la Torah. Ça veut dire, si c'est un désir de cette nature-là, alors d'accord, désir est habilité. Sinon, on refuse, c'est pas mariage. C'est encore la guerre des sexes. C'est-à-dire, désir, désir. Et je reviens maintenant sur l'analyse de Hegel, et qui dit ceci, l'animal a désir d'un objet, alors que l'homme a désir d'un désir. Et c'est comme ça qu'il explique toute la dialectique de l'histoire humaine. Ce qui m'a frappé, c'est cela. C'est que la pensée philosophique et la pensée naturelle ne connaît que des rêves masculins, c'est-à-dire la relation d'agressivité où il n'y a pas d'issue. Alors je reprends donc le schéma général. Le schéma général, je termine ça, est posé par l'équation Caïn-Abel. Et toute notre histoire humaine, jusqu'au temps messianique, est occupée à la recherche d'une solution à ce problème et on ne l'a pas trouvé. Et j'y arrive. Solution de Caïn, il faut un sujet, un objet, moi sujet, toi objet. Et là, vous avez toutes les civilisations, comme on dit en français, totalitaires. Okay? La théologie correspondante à cette société totalitaire qui est basée sur ce principe, puisque l'histoire entraîne qu'est sujet-objet, moi sujet, toi objet, c'est l'islam, au niveau théologique. Ensuite, il y a eu une réaction. On a essayé de trouver une autre solution. Et là, c'est très théoriquement d'ailleurs, la réaction chrétienne, de la conscience chrétienne. Je dis bien théoriquement, parce que ce que je vous explique là, c'est le schéma du sermon sur la montagne, mais qui n'a jamais été appliqué dans aucune société chrétienne, sauf dans certains couvents. Okay? Noirs, enfermés dans la boîte. J'aurais pu dire Yeshivot, d'ailleurs, ça revient. Et alors, il s'agit de quoi? Puisque l'histoire entraîne inévitablement sujet-objet, je ne peux pas être, moi, l'assassin. Alors, je serai la victime. Là, je droite. Là, je gauche. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? Tu seras le sujet, débrouille-toi. Si tu veux être assassin, moi je serai l'objet. C'est la réaction du christianisme, mais théorique, parce que jamais aucune société chrétienne n'a vécu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Troisième essai de solution, on les trouve surtout en Extrême-Orient. Et l'exemple que je connais le mieux, c'est le bouddhisme. Puisque l'histoire entraîne inévitablement sujet-objet, arrêtons l'histoire. Et on sera tous les deux objets, il n'y aura plus d'assassins. Vous voyez? Enfin, je schématise, mais vous comprenez comment ça se passe. Quatrième solution proposée par la Torah, chacun reconnaît l'autre comme sujet et c'est réciproque, il n'y a plus d'objet. Théoriquement, c'est très possible. C'est la seule solution possible. Et chacun dit à l'autre Adoni. Alors, il n'y a plus de Eved. Et c'est l'objet de la Torah. Comment on se relie de Adon à Adon? C'est clair? Théoriquement, c'est très facile. Dès qu'il y a deux sujets en présence, pour éviter que l'un ou les deux ne deviennent objet, chacun reconnaît l'autre comme sujet. Il n'y a plus d'objet. Chacun reconnaît l'autre comme supérieur. Est-ce que c'est clair? Mais ça peut marcher que si c'est réciproque. C'est pourquoi il y a un contrat de la Torah. La Torah ne concerne que les contractants de la Torah. Oui, chacun dit à l'autre monsieur. Étymologiquement, non, il n'y a pas d'égal chez les hommes. Il y a égal chez les pommes. Je ne sais pas. Vous pouvez acheter un kilo de pommes, on enlève une pomme, on ajoute une pomme. Mais des hommes... disons égalité dans la dignité. Et en quoi consiste cette dignité? C'est que je reconnais l'autre comme sujet. Ah oui, c'est ça ici. C'est un autre problème. Je le reconnais comme lui, il est. Vous comprenez, ici, je rappelle une phrase de José Eisenberg au dernier séminaire, dans l'analyse, dans la philosophie de Lévinas. Comme je disais tout à l'heure, c'est du Buber ou du chien Lévinas, c'est pas si simple que ça. Hein. Buber, c'est Buber, Lévinas, c'est Lévinas. Et Rachid, c'est Rachid. Mais dans l'analyse de Lévinas, cette obsession de reconnaître chacun comme autre, c'est pas exactement dans la Torah comme ça. Chacun n'est pas un autre, chacun est lui-même. Vous comprenez, c'est ça le problème. Et il y a une espèce de plaidoyer. Il n'est pas moi, Nahon, mais personne n'est moi, il n'y a que moi qui suis moi. Il est lui, il n'est pas autre que moi. Parce que quand je dis autre que moi, le critère c'est moi. Vous comprenez là où ça ne marche pas, hein? C'est clair. Et je vais vous dire, dans mon expérience personnelle, j'ai assez vite compris, moi je suis né en Algérie, et j'ai fait mes études occidentales en France, et je n'arrivais pas à comprendre les Juifs de France, qui voulaient absolument, prendre comme référence l'autre. Okay. Et j'arrivais pas à comprendre ça. Et finalement, à la longue, j'ai compris comment se sortir de ce piège. Okay. Moi, je suis moi. Et toi, tu es toi. Tu n'es pas autre que moi. Tant que toi, tu n'es pas toi, et moi, moi, on ne peut pas se relier. S'il faut se relier dans une relation ambiguë, je suis autre que toi et tu es autre que moi, c'est la guerre qui recommence. Vous comprenez ce que je veux dire, okay. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut être autre. Chacun est lui. Qu'est-ce que ça veut dire être autre? Autre que quoi? Autre que moi? Alors c'est moi le critère. On est retombé dans la société totalitaire. Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Okay? Chacun est un ni. Okay? Ata, c'est la situation d'objectivisation.
Non, c'est celle-là.
Hein?
Dans Bobert, c'est celle-là.
Oui, ou le ça, chez Freud. Okay? C'est la même chose à la limite. Okay? Ça, impersonnel. On a objectivisé. Alors, je vous prends ce schéma très très brièvement. Vous voyez, il y a un premier groupe de sociétés qui ont choisi le premier schéma. Moi, sujet, toi, objet. La théologie corollaire, c'est un autre problème, mais je vous l'indique en passant, c'est l'islam. Okay? Et ensuite, et c'est pourquoi les sociétés totalitaires et l'islam, ça marche bien ensemble. Vous avez remarqué les alliances contre nature. Okay? Et puis, d'autre part, la réaction chrétienne, moi, objet, toi, sujet, ça, c'est le christianisme. Et puis, dans la mentalité extrême-orientale, c'est surtout poussé à la limite, pas tellement dans l'hindouisme, mais dans le bouddhisme, et vous avez remarqué la lutte à mort entre le bouddhisme et l'islam en extrême-orient, okay, surtout dans l'Inde, Pakistan, Cachemire, tout le reste. Et là, c'est ni l'un ni l'autre sujet, pour qu'il n'y ait pas d'objet. Mais alors finalement, les deux sont objets. On arrête l'histoire. L'idéal du bouddhiste, c'est l'équanimité. Et puis alors finalement, la solution de la Torah, c'est sujet-sujet, et c'est donc théoriquement très facile à comprendre. Mais pratiquement, il faut un Shulchan Aruch très précis. Comment on se relie l'un à l'autre, de sujet à sujet. Parce que pratiquement, c'est très difficile. Okay? Puisque la tendance naturelle est toujours celle de... Alors, qu'est-ce qu'il a derrière, au point de vue du vocabulaire? C'est ça la Torah. C'est le derrière entre l'un et l'autre. Bon, ça va jusque-là? Non, ça n'existe pas en hébreu, rachon. Je veux dire, la forme in pour le pluriel ou pour le pluriel ne renvoie pas aux catégories pluriel masculin, pluriel féminin telles qu'on les a en français.
Non, mais
nachon. Mais vous avez des mots qui évidemment devraient être au féminin et qui ont un pluriel masculin. Vous avez des mots qui évidemment devraient être au masculin et qui ont un pluriel féminin. Par exemple, avot. Avot. Pourquoi on ne dit pas abim? Ça renvoie à une question de Kabbalah très, très différente. Okay? La relation entre le Yud et le Rav, ceux qui connaissent un peu ces problèmes, c'est Chokhmah et Tiferet. la différence entre Rolland de Hormel et Rolland de Tittel. Là où il y a encore incomplétude, pas Schlemuth, il y a un verbe. Là où il y a déjà Schlemuth, il y a un youth. Mais ce n'est pas masculin, féminin.
C'est...
Quel verset ?
Aïcha.
C'est pas un verset, c'est voilà. Mishnah.
C'est Mishnah. Alors. On voit bien que Mishnah, c'est de toute façon. L'objet n'est pas évacué. C'est très.
Attendez, alors c'est que. Il faut que je reprenne cela tout de suite. Okay. La situation naturelle fait que le masculin est sujet, le féminin est objet, et en fait, c'est ainsi qu'est la relation sexuelle naturelle. Bon. Étant donné que la situation naturelle est celle-là, la Torah intervient pour inverser la relation et pour la procédure du mariage, met la femme comme sujet et l'homme comme objet. Alors, c'est ça qu'il faut réussir. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est très difficile. Mais c'est ça l'objectif de la Torah. Et alors, il faut bien comprendre que c'est la femme qui fait que son mari est son mari.
La relation
c'est pourquoi la Torah est au féminin.
C'est un rôle très précis
avec un. Vous savez bien qu'on est juif par la mère, par la femme, pas par le père. Par
Et donc, dans la relation de la mère, de toute façon, c'est un homme masculin. Exact.
La Gemara le dit tout de suite.
Dans la relation entre la Torah et une femme, il y a avoir un travailleur pas comme un travailleur.
Voilà, il faut arriver à cette idée-là, peut-être un peu difficile en langage occidental, que s'il y a deux supérieurs, en logique aristotélicienne, on dirait alors il y a aussi deux inférieurs. Et il faut arriver à l'idée qu'il y a deux supérieurs et aucun inférieur. À moi. C'est-à-dire, je vais donner un exemple que mon maître m'a donné en m'expliquant ces choses-là. Je vous parle. Alors, je suis en situation de sujet, vous êtes en situation d'objet. Seulement, vous m'écoutez, vous êtes en situation de sujet, je suis en situation d'objet. Alors, il faut que je m'arrange, mais en même temps que vous m'arrangiez à ce qu'il n'y ait pas d'inférieur. Il y a toute une stratégie de politesse qui fait que je dois prendre une certaine manière de parler et que vous devez prendre une certaine manière d'écouter. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas d'inférieur. Sinon, il y a deux inférieurs en même temps. Vous comprenez le problème. Au fond... Là, ça, on le retrouve dans la situation de Jacob et Ésaü, avec un humour extraordinaire. Jacob, bon juif, lui dit Adoni. Et l'autre, il prend ça au sérieux. Hein, il dit à Avdi. Vous savez, c'est le manque d'humour. J'ai dit monsieur à quelqu'un, et il s'est pris au sérieux, parce que monsieur, ça veut dire monseigneur, monsieur. Okay. Et alors, il l'a cru. Et il a le droit de me croire, à condition qu'il me dise tout de suite, monsieur. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à réussir. L'idée à laquelle je voulais arriver, et je pourrais vous donner énormément d'exemples, c'est que la Torah n'est valable que lorsque c'est réciproquement. Qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas, parce que c'est un suicide, se relier avec quelqu'un qui est hors de la Torah comme on se relie avec quelqu'un qui est dans la Torah. Et c'est ce qu'on appelle bnébrit dans le sens originel. Ben Shehu bnébrit, ben berit, ou ben Sheheno ben berit. Eno ben berit, je ne peux pas avoir la même relation avec vous. Vous voyez ? Par exemple, prêt à intérêt. Interdit de prêter à intérêt, à condition que ce soit deux qui ne prêtent pas à intérêt. Mais si c'est un qui vous prête à intérêt, vous devez lui prêter à intérêt, sinon votre suicide. Sinon on retombe dans la situation pseudo-chrétienne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà un exemple. Ça y est, c'est clair. Si c'est un gars qui ne prête pas avec intérêt, qui prête avec pas intérêt, interdit de lui prêter avec intérêt. Il faut aussi lui prêter avec pas intérêt. C'est-à-dire, s'il y a réciprocité, la loi, je dis. S'il n'y a pas réciprocité, la loi ne peut pas jouer. Ça y est, c'est clair.
Est-ce qu'on pourrait donner une définition sujet sans avoir à faire référence à l'objet ?
C'est très simple. C'est Hillel qui a donné la réponse. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, chaque fois que vous vous demandez comment me conduire avec lui, alors il faut se demander comment je voudrais qu'il se conduise avec moi. Comme ça, je fais. C'est pas plus compliqué. Oui, la Torah, théorie, dans le sens théorique, est très facile. C'est le faire qui est difficile à cause des tendances, ou à cause des appétits naturels, qui sont, comme dit Hegel, Mais voilà, il a légalisé cela. Ça y est, c'est plus clair? Bon. Alors, tout ça, c'était pourquoi? Pour comprendre un peu ce que le Maharal veut nous dire en disant que la Torah ne peut être donnée qu'en chemin. Ça veut dire quoi? Que la Torah ne peut être donnée qu'aux hommes du chemin. Je ne dirais pas aux hommes du voyage, parce que le voyage a un terme dans le sens géographique et que commence le voyage de l'ascension. Comme vous avez dit à propos de... Qui a posé la question? Meshanava Yerushalayim? Okay. Non? C'est qui? Non, je voulais me rappeler. Qui a posé la question? Ah, c'est vous. La Gemara de Brachot se termine par l'enseignement suivant que j'ai cité un jour. Tzadikim en lahem menucha lo ba'olam hazeh ve lo ba'olam haba. Vous vous rappelez de cela? Les justes n'ont de repos ni dans ce monde-ci ni dans le monde à venir. Alors on a posé la question. Bon, dans ce monde-ci, on comprend que les justes n'ont pas de repos, mais dans le monde à venir. Pourquoi? Parce que dans le monde à venir, le repos, c'est l'ennui. Et le repos de l'esprit, c'est l'ennui. Et qui est la mère de tous les vies, d'ailleurs. Et donc, la récompense de ne pas avoir eu de repos dans ce monde-ci, c'est qu'on n'en aura pas dans le monde. Mais ce qui est important, c'est le verset qui est cité. Yelechu mechail el chail, yerae el elokim betzion. Et ça veut dire, c'est le verset connu, ils iront de prouesse en prouesse jusqu'à ce que ce Dieu se dévoile à Tzion. Et alors là-bas, c'est le terme? Pas du tout, c'est là-bas que ça commence. L'ascension. Vous comprenez le...
Il n'y a pas de bon signe pour organiser ce qui est juste, et que c'est à chacun de trouver sa voie à son chemin pour être juste, mais il n'y a pas de recette. Et qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de définition possible, donc ça peut être en termes de chemin et en termes de.
Non, c'est ça. Je dirais, on n'est pas juste une fois pour toutes. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit. Que finalement, et se rattache à un enseignement en général très important et très connu, que finalement, quelqu'un peut avoir été rachard, méchant, comme on dit, toute sa vie, le dernier jour est devenu tzaddik, il rentre comme tzaddik. Et si quelqu'un était tzaddik toute sa vie, le dernier jour est devenu rachard, il rentre comme rachard. Vous comprenez le problème? Par conséquent, ça veut dire que le problème moral n'est jamais résolu une fois pour toutes. Pas non plus le problème de la sainteté. On n'est pas tzaddik une fois pour toutes. C'est clair? Bon. Seulement, ça, c'est pas si simple que ça. Ça dit qu'au niveau des actes, ça dit qu'au niveau de l'être, c'est pas la même chose. Ça dit qu'au niveau des actes, c'est aléatoire. Ça dit qu'au niveau de l'être, c'est irréversible. Mais c'est un autre problème. Bien. Vous voulez qu'on fasse une petite apsaka? Il est donc midi. Oui. On se revoit dans 10 minutes, pour un quart d'heure encore, si vous avez des questions.